Je voudrais lire un texte pour vous rapporter mon témoignage, parce que j'ai deux témoignages à vous donner. J'ai celui de ma conversion, puisque je vous ai dit l'autre jour que vous aviez besoin de vérifier si votre pasteur était converti, donc je ne l'ai pas oublié. Et puis la deuxième chose, comment on est arrivé à Saint-Nazaire? Ça, c'est important pour vous aussi. J'aimerais, dans un premier texte, lire un verset dans le prophète Jérémie, parce que ça m'a marqué profondément. Jérémie 29, et ça c'est une parole que j'ai reçue, je pourrais dire en plein cœur, et c'était le sceau de Dieu sur ma conversion, mon appel. Jérémie chapitre 29, verset 11. Voilà ce que Dieu dit. « Je connais les projets que j'ai formés sur vous, sur toi, dit l'Éternel. » Projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance, vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel. Projet de paix pour vous donner un avenir et de l'espérance. Je suis issu d'une famille catholique, particulièrement du côté de ma maman, assez catholique, un enseignement. Je suis allé dans une école religieuse jusqu'à un certain âge. Et bien pour tous ceux qui sont passés, vous savez à peu près, c'est très facile, hein, vous apprenez les choses et après vous les répétez comme ça, c'est assez simple. Et j'avais au fond du cœur, depuis très très longtemps, et ça m'est venu à travers, comme quoi, j'avais une dizaine d'années, mon père m'avait emmené voir les 10 commandements. Vous savez, cette grande fresque cinématographique où il était question de la Bible. Et je ne sais pas, mais ça m'avait donné, à partir de cet âge, envie de lire la Bible. Et je voulais me renseigner, je voulais savoir ce qu'il y avait dans ce livre dont on parlait. Et puis, ce film m'avait émerveillé, Moïse, la traversée de la mer Rouge, etc. Le peuple hébreu, peuple martyr, en quelque sorte, et de la manière dont les choses avaient été décrites dans ce film. Et donc, les choses se sont passées de cette manière. Je sais que quand j'ai fait ma première communion, j'étais véritablement sincère. Ouais, vous savez, il y a une profession de foi à ce moment-là. Et je l'avais fait véritablement avec une profondeur. Hein, je me suis donné à Dieu. Comme cela. Oh, ça a été très fugace, hein, parce que quelques semaines après, il ne restait plus grand-chose. Mais néanmoins, je crois que dans un cœur d'enfant, dans un cœur d'un pré-ado, le Seigneur l'avait certainement entendu. Et puis j'ai eu une formation, donc je suis allé pendant 3 ans à Paris, 2 ans et demi à Paris, dans l'art floral. Hein, c'était ma spécialité. Et j'avais une ambition, c'était de faire le tour du monde. Ah oui, comme ça. C'est pour ça que j'ai des enfants qui sont assez remuants, hein, de ce côté-là. Alors ce que j'ai pas pu faire, c'est eux qui l'ont fait. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc derrière cette formation florale, je suis parti en Hollande. Enfin, d'abord, j'ai voulu partir en Angleterre, je me suis fait expulser 2 fois, hein, par défaut de papier, etc. Et puis, voulant aller plus loin, je me suis retrouvé donc à Amsterdam. Et vous savez que la Hollande est réputée pour ses fleurs. Hein. On parle de tulipes, mais il n'y a pas que les tulipes. Et je me suis trouvé donc à faire 2 stages, je faisais des études commerciales à ce moment-là. Et je me suis trouvé sur la plateforme internationale d'Alsmir. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. C'est un endroit où il y a une énorme production. Ça va dans le monde entier et tout cela. Donc j'étais en production et puis je suis aussi allé dans des entreprises d'exportation. J'ai passé plus de 2 ans. Et c'est à la faveur de cette expérience, à Alsmir, ça c'est une petite ville à 15 km d'Amsterdam, que j'ai rencontré une jeune fille. Une jeune fille protestante des milieux réformés, hein, église réformée néerlandaise. Et je vous dirais que la rencontre a été une rencontre... je n'étais pas converti à l'époque, hein, c'est ce que je suis en train de vous dire. Hein. Attention. Hein. Et donc, rencontrer une jeune fille, alors... vraiment pas le type hollandaise, parce qu'elle avait les cheveux noirs, les yeux bleus, etc. Et c'était une Française réfugiée, vous savez, au moment de la Révolution, enfin au moment de la persécution. Vous voyez, des gens qui venaient des Cévennes et tout ça. Je me suis retrouvé dans un milieu francophile. Des gens français expatriés au XVIe, XVIIe siècle, et qui ont fait souche là-bas en Hollande pour leur foi, qui se sont battus pour leur foi, qui ont changé leur nom. Certains ont changé leur nom français avec consonance néerlandaise. Et ces gens-là s'appelaient Clément. Donc c'est bien un nom français, Clément. Hein. Voilà, Clement en hollandais. Donc j'ai vécu cette expérience et cette jeune fille m'a, à un moment donné, alors qu'on se fréquentait, mais sérieusement. Hein. Je dis sérieusement parce que c'était du sérieux. Et donc elle m'a parlé de la Bible, que ses parents étaient donc protestants. Alors au départ, moi, hein, c'était bien, mais ça allait beaucoup plus loin que ça, parce que finalement, son père à un moment donné nous a interdit de nous voir, parce que, non pas seulement parce que j'étais français, mais parce que j'étais catholique. Et il y avait une frontière très très serrée, très stricte, un milieu certainement très rigoriste. Et en raison de cela, eh bien, on était interdit de se voir. Elle avait 17-18 ans, moi j'en avais 18 aussi, 19. Et puis un pays comme la Hollande, c'est merveilleux. C'est vrai, hein, la tête d'un adolescent, avec les... Je vous raconte un peu tout ça parce que... Bien. Alors, puis j'aime bien les... Et... Elle m'a parlé donc de la Bible. Et là, il y a eu une résonance au fond de mon cœur, dans ce sens que depuis longtemps, j'ambitionnais, je voulais lire la Bible. Et on se voyait en cachette, parce que c'est pas parce que papa interdisait qu'on ne se voyait pas. C'est justement le meilleur moyen pour se voir. Hein, et ça donne du piquant à l'affaire. Je ne suis pas en train de donner des conseils. Mais, toujours est-il qu'à un moment de guerre lasse, le papa a dit... Ton français, tu le fais venir à la maison. Je peux vous dire que j'étais dans les petits souliers. Et il m'a dit la chose suivante. Il m'a dit, si tu veux fréquenter ma fille, tu te convertis au protestantisme. Je lui ai dit, d'accord. Bon, c'est que j'avais pas fait autrement. Alors, au départ, c'était ça. Je suis retourné chez mes parents pour leur dire que j'allais me convertir. Ma maman était franchement chiffonnée, hein, comme on dit. Mon père, il m'a dit, si tu trouves ton bonheur, vas-y. C'est très bien comme ça. Donc, je survole l'argument de mes parents à l'époque. On n'avait pas la majorité à 18 ans, on l'avait à 21 ans. Et même pour ces questions-là, il fallait quand même demander les choses. Vous voyez, c'est normal. Et quand je suis revenu, je suis donc retourné voir les parents de cette jeune fille. Et ils m'ont dit, voilà, à partir de la semaine prochaine, tu vas prendre des cours bibliques. Il a convoqué le pasteur. Je suis allé tous les mardis soirs. Un homme charmant, vraiment. J'ai gardé des souvenirs formidables. Et il consacrait deux heures et demie pour moi le mardi soir. On était dans son bureau et il me parlait de la Bible. Et ça, c'est extraordinaire. On a fait le livre de la Genèse et l'évangile de Luc. Et moi, je l'écoutais. J'avais ma petite amie à côté de moi. Ça me rassurait. Hein. Et en français, il faisait des efforts. Il parlait 8 langues, hein, ce pasteur. Et il faisait des efforts pour me parler. Mais alors, à ce moment-là, ça tombait dans mon cœur. Extraordinaire, formidable. Le temps a passé et nous nous sommes fiancés avec cette jeune fille. Parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure, ça vous a fait sourire, mais c'était sérieux, hein, vraiment. Nous nous sommes fiancés et je me souviens que le jour de fiançailles, le pasteur est venu donc dans la soirée nous rendre visite dans la maison. Et il a dit une parole que je me souviendrai très très longtemps. Il a dit « Celui qui trouve une femme... » trouve le, pas le malheur, le bonheur, et c'est un don de l'Éternel. Alors j'ai dit, Seigneur, alors là, il n'y a pas de problème. Si c'est ça, c'est bien elle. Parce que je commençais à découvrir la Bible, je commençais à prier, il y avait déjà des choses qui se décantaient dans mon cœur par rapport à toute mon éducation religieuse, toutes sortes de choses. Alors j'ai dit, Seigneur, tu donnes l'assentiment. 3 semaines après mes fiançailles, alors qu'on commençait déjà à recevoir nos cadeaux de mariage. On avait déjà notre alliance, qu'à l'époque on portait dans l'autre main, et au jour du mariage on la mettait de ce côté-ci. Ça c'est bon, des formules un petit peu. Et on avait commencé déjà à recevoir les cadeaux, elle me dit maintenant c'est terminé entre nous. Alors là, ça a été la catastrophe, et je vais vous expliquer comment ça s'est passé. Parce que je ne m'attendais pas à ça. Moi je m'ouvrais à la foi, je découvrais finalement la vie spirituelle, la Bible. Et ça a été un véritable un drame. Alors, véritablement, je me suis effondré. Je suis tombé dans la dépression. J'ai arrêté mes études. J'étais en deuxième année, il ne me restait plus qu'un an à faire. Et à ce moment-là, ça a été un véritable craquement, une désolation. Mais je me suis aperçu d'une chose, c'est que l'acquis que j'avais eu pendant près d'un an et demi auprès de ce pasteur, la parole de Dieu, je suis passé par l'affliction et l'épreuve, comme on peut l'avoir quand on est jeune homme ou quand on est une jeune fille et qu'on passe par une déception sentimentale. Et ça a été une véritable déchirure. Et là, à ce moment-là, ses parents m'ont recueilli. Et alors que je devais partir en Suède, continuer justement dans la même entreprise, mais parce qu'ils avaient une succursale en Suède, j'ai dit non, c'est terminé, moi je ne veux plus aller plus loin. Alors mon tour du monde, il a tourné court, hein, je peux vous le dire, naturellement. Et je suis retourné en France. Et je voudrais vous dire que quand j'ai pris le train à Amsterdam pour revenir à Angers, puisque mes parents étaient à Angers, j'ai eu une pensée dans mon cœur, je vais passer très vite parce que j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais j'ai eu une pensée dans mon cœur à la gare d'Amsterdam, cette pensée que je ne pourrais pas expliquer, mais qui me disait ceci, dans 6 mois tu la reverras. Étonnant. Dans 6 mois tu reverras cette jeune fille qui s'appelait Nelly. Alors, je suis parti avec ça. Le pasteur qui était venu m'avait dit, en partant, « Alain, tu iras à l'église réformée protestante d'Angers. Bah, » pas de problème, moi j'allais suivre la même filière, et puis bon, je connaissais pas autre chose. Quand mon père est venu pour les fiançailles, il m'a dit, « À côté de la maison, il se construit un temple, ça doit être des protestants, à 50 mètres d'où habitaient mes parents. » Donc c'était le centre évangélique. Ma maman, par un concours de circonstances, reçoit un témoignage. Et ma maman, sans que je le sache, venait déjà dans les réunions évangéliques. Et quand je suis arrivé complètement en déconfiture, après mon expérience de Hollande, je suis allé naturellement au centre évangélique, c'était à 50 mètres de chez moi, je ne suis jamais allé au temple protestant. Parce que ça se trouvait là. Et là, j'ai entendu le plein évangile. J'ai l'habitude de dire, et ne soyez pas offusqués, mais j'ai l'habitude de dire que les catholiques m'ont donné la crainte de Dieu, les protestants m'ont donné la parole de Dieu, et les milieux évangéliques m'ont donné le plein évangile et la nouvelle naissance. Enfin, c'est comme ça que je l'explique. Il y a tout un cheminement. Ça fait un peu comme l'eunuque, vous savez, qui part de l'Éthiopie, qui vient adorer à Jérusalem et qui rencontre Jésus sur le chemin de Gaza. Vous connaissez hein, les textes, hein. Et quand j'ai entendu le plein évangile, je me dis, mais tout ce que m'a dit le pasteur pendant des mois et des mois, mais je suis en train de le réaliser, baptême du Saint-Esprit, dans l'église réformée, on ne parlait pas de cela. Et il y a eu des explications, des choses qui tombaient et tout cela, et là je me suis accroché dans la prière, dans ce mouvement qui c'était dans les années 72, hein, 70-72, et là il y a eu une véritable conversion. Quand je suis arrivé, parce que les anciens d'Angers m'ont vu arriver, j'avais les cheveux comme ça, ça changeait, hein. J'avais un manteau de cuir avec des bottes de cuir, vous auriez dit la Gestapo, quoi qu'ils avaient les cheveux courts à l'époque. Alors, ce qui s'est passé, c'est que du jour au lendemain, je suis venu à l'imposition des mains alors que je faisais une dépression. Mon père, quand il m'a vu arriver à la gare d'Angers, il m'a dit « t'as fait des bêtises d'abord à Amsterdam ». Je lui ai dit non. Non, j'ai pas fait de bêtises, mais nous avons repu nos fiançailles et tout ça, mes parents étaient consternés naturellement. Et à ce moment-là, j'ai entendu l'évangile, le pasteur a prié pour moi. Immédiatement, j'étais complètement et totalement délivré. Le lendemain, je me faisais couper les cheveux et changer de vêtements. Ah oui, mais c'est radical, hein. Non, mais je vous dis ça comme ça parce que c'est la vérité, hein. Ah, ça a été radical. Et je me suis accroché à la promesse que j'avais eue en partant d'Amsterdam. Où Dieu me dit, tu la reverras. Je peux vous dire que j'ai jamais prié autant. Enfin, quoique depuis, j'ai quand même pas mal d'expérience dans le domaine. Mais toujours est-il que je dis, Seigneur, tu m'as fait une promesse. Eh bien, tu m'as dit que je la reverrai, eh bien tu vas me donner la preuve que je vais la revoir. Et au mois de mai de cette année 72, alors que, bon, je faisais des grands pas, hein, à ce moment-là je me convertissais, je découvrais les choses. Alors à ce moment-là, je suis parti un beau matin au travail, et j'ai eu encore une pensée qui m'est venue. Alors je ne suis pas un visionnaire et je ne suis pas un illuminé, je tiens à le dire. Mais Dieu parle. Dieu parle, et il parle encore. Et ce matin-là, quand je suis parti, j'ai eu comme une vision, comme quelque chose de très fort. Et je voyais mon père le soir, c'est-à-dire je revenais à 18h, j'étais parti le matin de bonne heure, je voyais mon père qui venait vers moi, qui me tendait une lettre. Et cette lettre, c'était une lettre de Hollande. Ça, je le savais dès le matin. Quand je suis revenu le soir à 18h, exactement ce que j'avais vu, je vois mon père s'approcher, il me dit « voilà, c'est une lettre de Hollande ». Et je savais ce qu'il y avait dedans. Il y avait du papier. Et sur le papier, c'est ce qui vous intéresse, hein, ce qu'il y a sur le papier. Et sur le papier, il y avait cette lettre de cette jeune fille qui me disait « J'ai eu tort de rompre mes fiançailles. Je voudrais que tu reviennes et que nous reprenions notre relation. » Je peux vous dire que j'étais heureux. Ah ben, quand même, hein. Parce que ça représentait pour moi l'exaucement de mes prières. Ouais, l'exaucement de mes prières. Et nous sommes revus au mois de juillet. Je suis reparti à Amsterdam. J'ai été accueilli véritablement dans la famille parce qu'ils étaient contents. Vous vous rendez compte, dans une famille protestante, la conversion d'un jeune homme, c'est rare, hein, des conversions hein, dans l'église réformée. Hein. Et ça les a marqués. Le pasteur, après, quand on s'est marié avec Myriam, il m'a envoyé une belle lettre en disant « Tu étais un cas unique dans mon ministère. » Nous, on le voit beaucoup plus souvent chez nous. Fort heureusement, il faut qu'on le voit encore. Hein. Faut pas lâcher le morceau. Hein. Mais je veux dire que par là, dans ces milieux-là, c'était quand même assez rare. Et quand nous sommes revenus là-bas, le premier dimanche, je suis allé au culte, là où nous avions passé tellement de temps. Et au culte, elle était assise à côté de moi. Et nous avons senti à ce moment-là, il y avait quelque chose qui nous déchirait. Quelque chose qui nous séparait, mais comme une force. Et l'après-midi, nous sommes retournés à la réunion. L'après-midi, c'était pareil, comme quelque chose alors qui nous écartait l'un de l'autre. Et après la réunion, nous sommes allés nous promener. Et nous avons dit ce que nous avons ressenti, parce qu'elle a ressenti exactement la même chose que moi. Vous savez ce qui s'est passé? Alors vous savez déjà maintenant que je ne suis pas marié avec elle. C'est vrai? Tu le confirmes? Ben voilà. Vous avez entendu ce que mon épouse a dit? C'est pas la bonne. Alors, ce qui s'est passé, c'est que nous avons parlé, et vous allez voir que Dieu sait très bien faire les choses pour nous guérir. Pour nous guérir et nous dire qu'il a un plan pour nous. Alors, quand j'ai senti ça, moi j'étais profondément malheureux parce que ça recommençait comme 6 mois auparavant. Hein. Et nous avons parlé. Et quand elle m'a vu arriver avec les cheveux courts, petit costume, cravate, etc., etc., un beau jeune homme naturellement, assurément, mais qui n'était pas celui qu'elle avait connu quand j'étais parti, parce que naturellement, il y avait beaucoup de changements, il y avait une conversion, il y avait toutes sortes de choses qui s'étaient passées depuis ce temps-là. Et quand elle m'a vu revenir comme ça, bon, il y a eu naturellement ce mouvement de se retrouver, on était très heureux, naturellement. Mais quand nous avons parlé l'après-midi, elle m'a dit non, on ne pourra pas continuer ensemble notre relation. Parce qu'elle m'a avoué, elle m'a dit, tu sais, moi j'ai été éduquée dans une famille chrétienne depuis ma plus tendre enfance. Des milieux très fermés, des milieux très rigoristes, très légalistes. Et elle avait 18-19 ans. Le moment de l'émancipation, elle est sortie de l'église pour aller dans le monde, et moi je suis sorti du monde pour aller dans l'église. Et vous savez ce qui s'est passé? Eh bien on s'est croisés. Et quand elle a su que je m'étais converti, etc., elle m'a dit non, c'est pas possible. Elle n'en voulait plus, elle. Et moi je rentrais vers le Seigneur, j'allais vers le Seigneur. Et ça a été quelque chose d'affreux, parce que je peux vous dire que le voyage d'Amsterdam, surtout les retours sur la France, je les connais. Parce que je suis reparti, mais alors, deuxième fois en déconfiture. Jusqu'au jour, quelques semaines après, M. Leroux, mon pasteur, m'avait inscrit au camp de M. Marcel Le Filâtre à Gap. Et là, il s'est passé une chose. Je suis arrivé, j'étais dur comme du bois, j'étais sec. Je ne voulais plus entendre parler de l'Évangile. J'étais véritablement malade, malade intérieurement. Premier culte, une prophétie où Dieu me dit « Ne t'étonne pas de ce qui t'est arrivé ». C'est un jeune homme qui le donnait, il ne connaissait absolument rien à la situation. Mais parole de connaissance et qui dévoilait tout ce que j'avais vécu. Ne t'inquiète pas de ce qui t'arrive maintenant. Tiens, le texte. J'ai formé pour toi des projets de bonheur et d'avenir. Fais-moi confiance. Donne-moi ta vie. Maintenant, j'ai préparé quelque chose pour toi. C'est en Hollande que j'ai fait l'expérience de l'appel de Dieu. Et je lis un deuxième texte qui va m'introduire maintenant pourquoi je suis venu à Saint-Nazaire. Vous voulez savoir ou j'arrête? Ah non, je vois que vous y êtes quand même. Bon. Actes, chapitre 18, verset 9. Donc voilà l'histoire. Alors on ne peut pas dire qu'ils se marièrent et ils eurent beaucoup d'enfants, parce que ça n'a pas été le cas. Le Seigneur avait préparé quelqu'un d'autre. Acte 18, verset 9, le Seigneur dit à Paul en vision pendant la nuit, « Ne crains pas, mais parle et ne te tais point, car je suis avec toi et personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal. » Parle, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. Il y demeura 1 an et 6 mois, enseignant parmi les Corinthiens la parole de Dieu. Pour l'histoire de la Hollande, c'est fini. Les années ont passé, nous nous sommes mariés naturellement avec Myriam, avec mon épouse, nous avons eu 3 enfants. Milka qui est au milieu de nous, Mathieu qui est à Paris et Suzanne qui est à Paris. Puis 2 petits bouchous, Romain, mais enfin bon, ils sont vivants, hein, Eliam et Tobias. Ils en ont fait voir cette semaine à papy et mamie. Hein. On a couru, hein. Mais c'est normal, ils sont vivants. Bon, que le Seigneur soit béni. Alors, donc j'ai eu une vie professionnelle. Hein, j'avais arrêté mes études en cours de route, hein, mais ça n'a pas empêché au Seigneur, finalement, de me donner une situation. Hein, j'étais responsable dans une entreprise, j'ai eu des gens sous mes ordres, hein, avec quand même pas mal de responsabilités. Ça m'a valu beaucoup de soucis, c'est ce que j'ai dit un petit peu, entre parenthèses, vendredi soir, hein, tribunal, toutes sortes de choses. Et puis, bon. Mais ça, ça fait partie des expériences de la vie, qui de toute façon, il faut y passer par là. Et moi, je suis tout à fait favorable pour qu'un pasteur ait travaillé avant de rentrer dans le ministère. Parce qu'il va apprendre à comprendre ce que c'est que la vie sociale, ce que c'est de gagner de l'argent. Ce que c'est de gagner de l'argent pour voir la valeur aussi de l'argent. Parce que je pense qu'il faut savoir aussi que quand les uns et les autres vous donnez votre dîme, c'est parce que vous travaillez, votre offrande. Et ça, c'est respectable. Pour celui qui n'a jamais su ce que c'était de gagner de l'argent, eh bien, c'est trop facile de dire, eh bien, donner, 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 donner. Et quand on y est passé, c'est différent. Bon, ceci dit, entre parenthèses, mais c'est peut-être quand même quelquefois, il faut le dire, dans les temps dans lesquels nous sommes. Et j'ai une situation professionnelle, j'ai attendu 16 ans, vous avez vu, mon épouse vous a expliqué que le mari est exercé à la patience, hein. Mais ça n'a pas empêché de toute façon qu'on servait quand même le Seigneur, parce que ça fait 28 ans que je prêche, donc c'est pas quand même, mais bon, c'était comme ça. Bon, mis à part tout cela, je suis rentré dans le ministère à plein temps en 1989, donc ça fait maintenant, si je compte bien, 15 ans, hein, quelque chose comme ça. Et je suis rentré donc dans l'œuvre de Dieu à Angers. Nous étions pasteurs à Angers, à Saumur et à Cholet. Beaucoup de travail, mais du travail très intéressant. On a fait beaucoup de choses, on a fait des camps de jeunesse, on a fait des colonies, on s'est engagé dans des voyages à l'étranger avec les jeunes, et des choses très intéressantes, des séminaires de couple, des séminaires de personnes seules. Vraiment un enrichissement que j'espère que nous partagerons ensemble, si les choses nous sont permises, hein, si le Seigneur nous conduit dans telle ou telle direction, parce que je pense que l'expérience... nous voulons la partager avec les autres, on ne va pas la garder pour nous, hein, pour un enrichissement des uns et des autres. Bon, ceci dit, nous pensions devoir rester à Angers, certainement, parce que nous avions à cœur cette œuvre, ministère pastoral, particulièrement dans l'église d'Angers, ministère d'évangélisation à Cholet. Et les œuvres ont grandi, ont prospéré, on peut le dire, non pas seulement à travers nous, mais à travers toute l'équipe que nous formions. Et... nous pensions donc rester jusqu'au moment où, il y a 5 ans, alors que nous nous rendions à Cholet pour une réunion, c'était une fête de Noël, j'ai eu une pensée très forte. J'en ai pas tous les jours des pensées et des visions, hein, je tiens à vous le dire. Hein. Non, mais je tiens à vous le dire parce que vous allez dire, maintenant on a un pasteur, il voit le ciel ouvert. Enfin, pour l'instant, je vois que le plafond, si ça peut vous réconforter. Mais toujours est-il que vraiment cette pensée s'est imposée très fortement à moi, cette parole que vous connaissez dans Genèse chapitre 12, quand Dieu dit à Abraham, va, quitte ton pays, ta patrie et la maison de ton père. Et là, ça avait une signification tout à fait particulière pour ma femme et pour moi-même, la maison de ton père. Et je me suis retourné vers Myriam et je lui ai dit, tu sais, le Seigneur vient de me dire quelque chose au fond de mon cœur. Immédiatement, je lui ai dit, on va partir. Elle me dit, d'accord. J'ai pas attendu longtemps, moi, par contre. Hein. Bon, elle m'en voudra pas. Et de ce fait-là, je suis allé voir mon pasteur et je lui ai dit, voilà, le Seigneur a mis sur mon cœur de partir, de quitter. J'ai écrit une lettre, donc à destination des anciens et de lui-même en tant que président, et une lettre beaucoup plus familiale, parce que mon pasteur, c'était mon beau-père. Vous l'avez compris. Et vraiment, quand je lui ai dit nous allions partir, il n'était pas content. Pas du tout. Parce que, bon, il y avait un attachement familial, il y avait beaucoup de choses qui nous reliaient, qui nous tenaient, et puis peut-être quelques espérances, mais je lui ai dit, je ne donnerai pas mon aval pour la succession. Je lui ai dit, bon, il faudra chercher quelqu'un d'autre, tout simplement, je ne voulais pas. Et c'est ce que j'ai expliqué aux églises d'Angers, de Saumur et de Cholet. Je lui ai dit, moi, personnellement, je ne toucherai pas à l'héritage familial. Ce que j'ai dit à mes collègues pasteurs du Val-de-Loire. Et donc, nous avons attendu parce qu'il n'était absolument pas décidé à nous lâcher. Il était mon président, c'est tout à fait normal qu'on obéisse à ses pasteurs. Et même quand on est pasteur, on doit obéir aussi à ceux qui sont au-dessus de nous. C'est tout à fait logique et tout à fait normal. Donc, on a laissé le temps passer, et puis en priant, on dit « Seigneur, tu nous conduis, tu permets qu'il y ait des circonstances qui font que nous allons, eh bien, nous allons réaliser ce que tu nous as donné, ce que tu nous as demandé. » Et nous avons laissé passer 2 ans, comme quoi avec Dieu, il faut de la patience. Et quand on prend le temps, la peine de la patience, je peux vous dire que quand ça vient bien. Et nous sommes partis un jour en vacances dans le midi de la France, c'est-à-dire en Pays Basque, chose que nous faisons rarement quand nous sommes en vacances, parce que vous savez que le pasteur travaille le dimanche. Oui, on n'a pas encore revendiqué pour avoir notre dimanche. Hein. Mais nous travaillons le dimanche, et quand je suis en vacances, je ne vais nulle part le dimanche. Vous comprenez pourquoi? Parce que je me fais embarquer. Et puis on dit, tiens frère, venez donc prêcher. Venez donc cet après-midi. Et puis la réunion de prière et ceci et cela. Alors je peux vous dire que ce n'est plus des vacances. Hein. Mais c'est normal parce qu'on a quand même la famille aussi à s'occuper. Il faut rester équilibré dans tout ça. Et chose extrêmement rare, je vais à Bayonne. Et à Bayonne, nous arrivons, nous ne faisons pas connaître. À la fin, on a tout simplement dit, nous sommes des chrétiens d'Angers. Ah ouais, quand même. Hein. Mais le frère, quand il a prêché, il prend le texte de Genèse chapitre 12 et il commence à raconter « Va, quitte ton pays, ta patrie, la maison de ton père ». Il commence pendant 3 quarts d'heure comme cela. Il raconte toute notre expérience que nous avions sur le cœur. Quand on est sorti avec ma femme, on a dit « Tu sais, on va partir. Hein » Ça y est, c'est, comme on dit, c'est parti. Hein. Mais ce n'était pas encore parti. Parce que je suis retourné voir donc M. Leroux, je lui ai dit « Voilà, le Seigneur nous a parlé ». Nous étions en vacances, je lui ai dit, voilà, ça s'est bien passé, le Seigneur nous a parlé. Il m'a dit, je le sais. Ah bon? Parce que vous savez que les pasteurs savent tout? Presque tout. Alors, il m'a dit, je sais que le Seigneur vous a parlé. Mais moi, je ne lui ai pas dit ce que le Seigneur m'avait dit. Je lui ai dit, ah, non, non, on attend maintenant d'autres choses. Donc, il n'a jamais su, jusqu'à ce que je vais vous dire, ce que le Seigneur nous avait dit. Et puis, on a laissé passer encore 2 ans, 4 ans. Et à ce moment-là, nous avons eu des gros investissements dans l'église d'Angers, nous avons eu des grosses missions à faire, à organiser, la convention France Nord, hein, que nous avons eu à charge et tout ça, et vraiment j'étais dans un état de fatigue, très 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 fatigué, parce qu'on ne s'est pas arrêté. Et plus naturellement cette église qui était quand même, somme toute, quand même relativement importante. Et après la convention, je suis allé donc dire à mon épouse, je lui ai dit, tu sais, après la convention France Nord, tu vas voir, c'est la fin pour nous ici. C'est une conviction, quand même. La fin. Intuition, indication du Saint-Esprit, c'est la fin. Effectivement, 15 jours après la convention, il y a une première sœur chrétienne qui vient voir Myriam un dimanche matin en disant, j'ai eu une vision cette nuit, et une personne qui n'est pas forcément très charismatique, on ne l'entend jamais dans l'Église, une personne qui ne s'est jamais manifestée à travers les dons spirituels, qui vient nous voir en disant, j'ai eu une vision cette nuit, et je vous voyais partir. Et elle était véritablement malheureuse de dire cela. C'était avant le culte, Myriam dit au Seigneur, eh bien écoute, hein, si cette sœur dit la vérité, tu le confirmes dans le culte. Pas de confirmation dans le culte. Le lendemain soir, à la répétition de chorale, parce que nous avions une répétition à 18h tous les lundis soirs. Une autre sœur, une plus jeune, vient voir ma femme s'effondre, elle est en pleurs, elle dit, le Seigneur m'a montré que vous allez partir. Donc la confirmation n'est pas venue le jour même, mais elle est venue le lendemain. Nous allons à Saumur 3 semaines après. Une sœur vient s'asseoir à côté de ma femme, qui discutait pendant que je parlais, c'est pas tout à fait normal. Ça lui arrive, hein, quelquefois. Hein. Vous me le direz si jamais vous voyez les choses se produire ici, parce que c'est pas... Elle vient me voir, elle vient voir mon épouse, elle s'assoit à côté d'elle en disant « Il faut que vous partiez maintenant du centre évangélique Saint-Cruz de Bretagne. » Myriam lui dit « Mais bien sûr qu'on va partir parce qu'on le sait déjà. » 1, 2, 3. Je retourne voir mon beau-père. Je lui dis « Maintenant, papa, nous allons partir. » Et je commence à lui raconter ce qui s'est passé à Bayonne. Je lui raconte, nous lui racontons ce qui s'est passé. Finalement, et bien là, avec ces 3 sœurs qui viennent nous voir, ça n'a pas été très très simple aussi. Et je lui dis maintenant, c'est fini, nous partons. Il n'y a plus à prolonger. Nous allons partir et je vais engager maintenant auprès du mouvement des assemblées de Dieu, eh bien, une demande tout à fait en bonne et due forme, comme il se doit. Et je prends contact avec les responsables régionaux, président de région, président de France Nord et puis secrétaire du Val-de-Loire, etc. Je dis, voilà, je quitte Angers. Les gens ils me disent, mais comment tu vas quitter Angers? Tu pars d'Angers? Parce que tout le monde pensait qu'on était très bien, mais personne n'avait imaginé qu'on allait partir. Et j'ai fait cette demande, je leur dis, passez l'information maintenant, vous le dites. Et vous allez voir, si je dis que j'ai insisté pour faire connaître, c'est qu'il y a quelque chose de miraculeux derrière. C'est miraculeux parce que, à ce moment-là, je suis tombé malade. Au moment où je préparais à partir et je n'avais vraiment plus la force, je commençais à avoir des vertiges. Et quand je dis que commencer, c'est un euphémisme, hein, parce que je ne pouvais plus me lever. Je restais 3-4 jours au lit, avec des piqûres de tanganyl, des choses comme ça, je n'arrivais plus. Je dis, Seigneur, tu me demandes de partir dans cet état, mais qu'est-ce que je veux faire? Je ne suis plus capable de me tenir debout. J'ai passé les derniers mois à prêcher assis à Angers. Hein. Je ne pouvais pas me tenir debout. Je dis, mais Seigneur, tu envoies, qu'est-ce que tu envoies là? Un infirme? Tu envoies quelqu'un qui ne tient pas sur ses jambes et tu veux m'envoyer dans une autre église? Ils vont dire, mais qu'est-ce que c'est que ce pasteur? Il nous envoie un malade. Ça va mieux, hein? Alors, j'ai passé tout l'été l'année dernière comme ça. Et puis nous avons eu des propositions dans l'est de la France, dans le nord de la France, en Normandie. Nous sommes allés, nous avons vu et on sentait que ce n'était pas ça. Et quand nous sommes revenus, c'est à la même époque que maintenant, c'est-à-dire fin octobre, nous étions vraiment découragés. Parce que quand on attend 5 ans, et qu'on ne sait toujours pas, parce qu'on savait que nous allions partir, mais on ne savait pas où nous allions partir. Et nous avons passé ce dimanche avec nos parents. Ils étaient venus à la maison, nous avons parlé, nous avons dit, voilà ce qui se passe. Et là, nous étions avec Myriam à deux doigts, vraiment de plonger dans la dépression. Parce que la tension était tellement forte, tellement malheureux à l'intérieur, et puis physiquement, moi, ça n'allait plus du tout. Et à ce moment-là, mes beaux-parents m'ont dit, bien, il faut qu'il y ait une décision. Et nous avons prié à ce moment-là. C'était le dimanche. Le mardi matin, il était 9h le matin, je reçois un appel téléphonique de quelqu'un que vous connaissez, qui m'appelle et qui me dit ceci, voilà, je t'appelle Alain, parce que j'ai à cœur de te dire que depuis des mois, le Seigneur me demande de quitter, de partir de cette église. Mais je résiste. Et je ne suis pas bien aussi, là, il paraît qu'il a eu des malaises, enfin vous avez connu ça, hein. Moi j'avais des malaises aussi de mon côté. Hein. Et il me dit, voilà, je voudrais te dire, je sais Alain que tu es bien à Angers, et que je suis persuadé qu'il ne va pas partir d'Angers. Mais j'ai un fardeau sur le cœur, il faut que je te le dise, alors tu en feras ce que tu voudras, tu penseras la chose comme tu le voudras, mais je te le dis, depuis des mois, dans l'éventualité de mon départ, il y a un nom qui revient, c'est Alain et Myriam Ouvrard, c'est Alain et Myriam Ouvrard. Comme ça. Alors je lui dis, écoute, Bruno, est-ce que tu sais que je vais partir d'Angers? Il me dit non. Ben oui, bien sûr. Parce qu'il pensait qu'il était persuadé que j'allais rester. Ben je lui dis, écoute, voilà, hein, depuis tant de temps, je lui dis, mais on t'a quand même pas mis au courant en Bretagne et partout, là, dans le nord de la France, qu'il y avait une vacance d'un pasteur à Angers qui allait partir et qui cherchait quelque part. Bon, il me dit non. Il me dit, écoute, je viens de faire une réunion pastorale, c'était la veille, le lundi, je ne sais pas, c'était à Vannes ou autre part. Et il m'a dit, j'ai rencontré Daniel Kenneck, qui est le responsable de la région. Et lui, je lui avais dit à Daniel Kenneck, je lui ai dit, voilà, il était au courant depuis des semaines et des semaines. Et il m'a dit, je l'ai vu, j'ai parlé avec lui, on a parlé longuement, il m'a rien dit. Donc c'est le lendemain que Bruno m'a téléphoné, il ne savait absolument rien. Alors à ce moment-là, je lui ai dit, écoute, on va convenir d'une chose, c'est que je vais venir à Saint-Nazaire, au moins. Et quand vous m'avez vu, comme vous nous avez vu la première fois, vous ne savez rien. Mais moi, je savais déjà beaucoup de choses. Mais il fallait que les choses se fassent. Et là, à ce moment-là, nous sommes venus à Saint-Nazaire, et quand nous sommes arrivés, vraiment dans notre cœur, on a dit, c'est ici, Seigneur. Je vous dis ça comme ça, hein. Vraiment, alors qu'on avait fait d'autres églises, et on sentait qu'il y avait quelque chose qui... Bon, on a senti que c'était ça en même temps avec Myriam. Donc, on a organisé, il a fallu qu'on prépare l'église d'Angers, qu'on annonce, on a les choses à l'avance. Et puis, on a préparé notre départ. Et plus je préparais le départ, plus j'étais malade. Ce qui a fait que quand je suis arrivé vous voir la deuxième fois, au mois d'avril, vraiment, j'étais pas bien. Mais en aucune manière et aucune pensée, nous en parlions cette semaine avec mon épouse, en aucune manière nous avons remis l'appel de Dieu en cause. On a dit de toute façon, on va à Saint-Nazaire, on ira à Saint-Nazaire, il n'est pas question de faire marche arrière, même dans mon état. Et quand je suis arrivé, les frères anciens pourront le dire, quand ils m'ont vu débarquer à Pontchâteau, j'étais pas très reluisant, franchement. Parce que je tenais à peine debout et ça, c'était un moment extrêmement difficile. Et je peux dire que quelque part, nous avons eu vraiment toute une conduite. J'en passe et je ne vais pas rester trop longtemps à vous expliquer ces détails, mais il faut que vous le sachiez, frères et sœurs, parce que nous avons besoin de vos prières. Je crois qu'on n'est pas là par hasard, ce n'est pas moi qui ai choisi, d'abord. Il y a certainement quelque chose à faire, c'est quand j'ai lu ce texte que Paul dit « Parle et ne te tais point parce que j'ai un peuple nombreux ». Moi, je suis convaincu qu'il y a quelque chose. Enfin, moi, je suis convaincu, heureusement que le pasteur est convaincu. Et je voudrais certainement donner cette impulsion, et peut-être l'avez-vous déjà senti, qu'il y a certainement quelque chose à faire, ensemble. Moi, ce n'est pas le pasteur qui va faire les choses tout seul, parce que, non, ce n'est pas ça, on travaillera ensemble. Et je me souviens, alors que nous étions en train de faire une mission dans une ville, dans le Maine-et-Loire, au mois d'avril dernier, il y a un pasteur du nord de la France qui se trouvait là. C'est quelqu'un peut-être que vous avez lu son nom, c'est John Van Den Hogen, celui qui a écrit « Quand les montagnes s'éloigneraient », etc. Vous avez compris ce beau cantique. Il ne savait strictement rien de notre situation. Il y a eu une parole de connaissance, et qui, dans notre situation, liée à Angers et à Saint-Nazaire, nous a révélé, mais vraiment avec force détail, ce qui allait se passer lorsque nous allions arriver. Dans le détail, il me montrait une colline qui était à gravir, et c'est vrai que je ne pouvais plus la monter, cette colline. C'était trop pour moi. Et à ce moment-là, il m'a dit, quand tu seras arrivé au sommet, tu vas voir, il va y avoir des choses formidables qui vont se passer. Ça, c'est la promesse que j'ai dans le cœur. Et c'est ce que je voulais partager avec vous cet après-midi. Parce que c'est important pour vous. Alors le Seigneur nous a aidés. Et je peux dire que le Seigneur a été merveilleux. Parce que nous avons vu la main de Dieu dans ce déménagement, dans l'affection également, je dois le dire, les affections des Angevins, des Saumurois et des Choletais, l'affection des Redonnais et des Nazériens. Je ne me suis pas trompé cette fois-ci. Hein? Et ça, je crois que c'était quelque chose d'un formidable encouragement. Et nous avons vécu, là, à partir du mois d'août, quelque chose, alors que je me suis traîné, je faisais les réunions, ça ne se voit pas, parce que quand je plaisante, c'est quelquefois aussi pour me mettre à l'aise. Hein. Faut le dire aussi, c'est pas la peine de jouer la comédie devant les gens. Hein. Mais je sais qu'à partir du mois d'août, il y a eu véritablement une évolution dans ma santé. Et quelquefois, je me demande, mais pourquoi la semaine prochaine, tu vas te faire opérer? Ah oui. Mais il faut que j'y aille quand même. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Ben écoutez, hein, si vous priez bien fort, parce que je prie aussi, hein, ah ben si je ne dois pas y aller, la voiture ne va pas démarrer. Puis le médecin, il va attendre. Non, non, mais c'est pour dire que quand même, il y a quelque chose. Et si on est arrivé à Saint-Nazaire, ce n'est pas le fait du hasard. Ah oui, il y a quelque chose, moi je le crois de tout mon cœur. Et on va se serrer les coudes, frères et sœurs. On va s'aimer les uns les autres, parce que ça, c'est fondamental dans l'Église. S'il n'y a pas d'amour, ça ne marchera pas. Il faut qu'il y ait de l'unité, il faut qu'il y ait de la vérité entre nous, il faut qu'il y ait également de l'équilibre. Et à ce moment-là, vous allez voir, le Seigneur va bénir, il va donner sa grâce. Alors voilà, ce modeste témoignage que je voulais partager avec vous, parce que me semble-t-il que c'est tout à fait normal que vous le sachiez. Alors, maintenant c'est à vous de savoir si on est converti ou pas. Hein. Mais je pense qu'on doit l'être un petit peu quand même. Hein. Voilà, que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous donne sa grâce. Et puis, il y a certainement beaucoup de travail devant nous. En tous les cas, moi, avec Myriam, on voudrait vous remercier pour votre accueil. On voudrait, également que l'on fasse un petit bout de route ensemble. Hein? Je prends ma retraite d'ici quelques temps. Mais c'est pas pour ça qu'on va s'arrêter. Hein? Ça paraît pas, hein? Mais le temps passe. Hein? Mais je pense qu'il y a certainement beaucoup de choses à vivre et à partager ensemble. Que le Seigneur vous bénisse et de tout cœur, nous vous remercions.